Espace 2. L'histoire, les sciences humaines, la philosophie, la géopolitique et les sciences, c'est tous les jours, dans les temps qui courent, sur Espace 2, à 8h30 et à 19h30.
Du 1er au 5 octobre à 17h, dans D'un air entendu, sur Espace 2.
Espace 2, Annick Chuin.
Bonjour, la morale est-elle déterminée par les lois naturelles ? Question sensible, c'est la nôtre dans ce temps qui court. Bienvenue à vous. Morale et évolution biologique, c'est le titre de l'ouvrage paru tout récemment aux presses polytechniques et universitaires romandes, le premier ouvrage du collectif Déterminisme et Liberté qui s'est constitué à l'université de Lausanne. Depuis 2004, ce groupe réunit biologistes, philosophes, linguistes, sociologues, biophysiciens et éthiciens dans une réflexion sur la possibilité d'appliquer des théories de l'évolution à l'étude des comportements humains. Que peuvent se dire science de la nature et science de la culture? Ébauche de réponse avec deux membres du collectif, Christine Clavien, doctorante en philosophie, et Fabrice Clément, sociologue. Ils sont les invités de Marc Berman.
Le groupe Déterminisme et Liberté s'est formé autour d'une question très polémique. Cette question, c'est peut-on appliquer la logique évolutive à l'étude des comportements humains? Pourquoi est-ce qu'a priori, on éprouve une certaine réticence à la capacité des sciences naturelles d'expliquer des comportements humains et plus précisément des comportements moraux ? Fabrice Clément ?
Bien, il y a probablement plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte. Il y a un facteur où, en fait, c'est assez désagréable de s'imaginer être guidé par des lois de la nature, des lois biologiques. Une des raisons pour laquelle c'est si difficile, je crois, c'est un peu une mécompréhension. C'est une des choses qui, venant des sciences humaines, nous a frappé, Christine et moi, une mécompréhension de la manière dont les scientifiques « durs » entre guillemets envisagent la nature des lois physiques, par exemple. On a encore, du côté des sciences humaines, une vision de la science où la causalité est une causalité de type un peu boule de billard. Il y a une boule qui tape dans l'autre, paf, ça cause le comportement de l'autre boule de manière très, très directe. Alors qu'en fait, déjà les physiciens, hein, c'est... Les gens du CERN n'arrêtent pas de répéter ça. Les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Les déterminismes, entre guillemets, sont beaucoup plus complexes, sont probabilistes, etc. Et si c'est déjà le cas pour des objets inanimés, Dieu sait si c'est encore plus complexe pour la biologie. Et là, les gens, cette fois-ci non plus de la physique, mais des neurosciences, nous disent aussi, et on a de la peine à l'entendre du côté des sciences, les sciences humaines, notre cerveau humain se caractérise par une très très grande flexibilité. Et là encore, on n'a pas affaire à des causalités strictes. Si telle et telle chose se passe, alors organisme répond comme ça. Il y a des choses beaucoup plus contextuelles, selon les contextes, etc. Selon les situations dans lesquelles l'organisme se trouve, il va réagir d'une façon ou d'une autre. Mais il y a effectivement quand même cette idée de réaction à quelque chose qui nous vient de l'extérieur. Donc on est réactif. Et ça, c'est un des trucs qui bloque beaucoup et qui fait très peur, j'imagine, aux sciences humaines et à nous-mêmes, en tant qu'individus. Il y a quelque chose d'assez angoissant de se dire qu'on est des êtres essentiellement réactifs. Je pense que c'est un des grands blocages.
Et puis on le verra tout à l'heure, que si on considère que les comportements humains et les comportements moraux sont déterminés par des lois naturelles, ça pose des questions très importantes. La question de la liberté, de la responsabilité par rapport à des actes, mais ça on va y venir tout à l'heure. Parce qu'effectivement, c'est la question de base de cet ouvrage collectif, Morale et évolution biologique. Le comportement moral est-il déterminé par des lois naturelles ? Il faut déjà qu'on arrive à des définitions pour comprendre exactement ce qu'est comportement moral, morale, sur quelle définition vous avez pu vous mettre d'accord entre biologistes, philosophes, linguistes, éthiciens, anthropologues. Christine Clavien, sur quelle définition de la morale vous avez trouvé un consensus plus ou moins large ?
Oui, alors il existe beaucoup de définitions de la morale, surtout en philosophie. Chaque philosophe aura sa propre conception de la morale. Ensuite, si on va dans d'autres sciences, selon les intérêts des gens, les définitions sont assez diverses. Disons qu'il y a certaines composantes qu'on peut retrouver un peu dans toutes les définitions de la morale qui sont données. Une composante, c'est plutôt un aspect un peu structure du discours normatif ou bien de l'activité morale où ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser des normes. on va poser des règles. Et puis, on attend de la part d'autrui qu'ils suivent ces normes. C'est une attente de conformisme, en fait, à ces normes. Et si autrui n'agit pas de manière conforme à ces normes, on va vouloir le punir. Donc, il y a l'aspect prescriptif et punitif. Il y a aussi l'aspect réflexif, où ce qu'on va demander, c'est si on pose une norme, on va demander à justifier cette norme. Pour ça, on va faire appel à différentes réflexions. On reviendra peut-être plus tard sur la question de comment justifier une norme.
Oui, parce que est-ce qu'on peut justifier une norme par des lois naturelles? Ça va être une des grandes questions.
Ça, c'est du point de vue plutôt de la structure du discours normatif et de l'activité morale. Et ensuite, du point de vue plutôt du contenu, on va utiliser des valeurs comme le bien, le mal, ou des valeurs plus particulières comme le courage, etc. Et puis, il y a aussi du point de vue du contenu, l'aspect de la prise en compte des intérêts d'autrui qui apparaît en fait en général dans la définition de la morale, où si on a plusieurs normes, on va faire une distinction des normes plutôt conventionnelles et des normes morales en fonction du fait que les normes morales tiennent compte en fait de ce qui est bien pour autrui, ce qui est bien pour leur développement personnel, etc.
Bon là, à grands traits, vous avez dessiné ce sur quoi vous avez peut-être réussi à vous mettre d'accord tous dans le groupe Déterminisme et Liberté autour de la notion de morale. Maintenant, il y a la question des lois naturelles, parce que la question de base du livre est toujours le comportement moral est-il déterminé par des lois naturelles? Sur quelle conception des lois naturelles avez-vous pu vous mettre d'accord?
Bon, déjà, les lois naturelles, c'est quelque chose d'assez complexe. Alors, est-ce que c'est juste le comportement génétiquement déterminé? Ou est-ce que c'est une loi que les individus vont créer de manière réflexive, mais sur la base d'intuitions qui sont hors de leur propre contrôle? C'est une question assez vaste.
Mais c'est vrai, la chose à laquelle on pense aujourd'hui, au début du XXIe siècle, quand on dit loi naturelle, c'est des comportements qui seraient génétiquement déterminés. Fabrice Clément.
Là encore, il faut bien...
Je réduis, je sais.
Non, il faut réduire. Ça, du point de vue méthodologique, il faut réduire, parce qu'autrement, on a affaire à trop, une complexité trop grande. Ouais. Par contre, l'idée de détermination génétique du comportement est probablement un peu exagéré, dans le sens où les deux composants ne sont pas forcément, d'un côté le gène, et puis il y aurait une flèche comme ça causale, et le comportement. Et entre deux, il y a toute une série d'intermédiaires extrêmement, justement, complexes, dans tous les sens du terme, hein, qui interagissent les uns aux autres, etc. Et on peut avoir, par exemple, et c'est là où j'ai toujours une discussion avec les gens des sciences sociales, disons, qui ont une approche très traditionnelle, c'est de se dire, certes, il y a toute une dimension sociale, normative, que les individus acquièrent au cours de leur socialisation, par exemple, qui ne repose pas, strictement parlé, sur les gènes. Leur comportement social n'est pas déterminé par les gènes. Par contre, pour effectuer un certain nombre de comportements sociaux, pour s'en sortir dans notre environnement social, on a besoin d'une série de processus, de mécanismes de résolution de problèmes, de sélection de son attention, d'organisation de son comportement, etc., qui, eux, ont besoin d'une sorte de machinerie, si on veut, cérébrale, pour qu'on puisse s'en sortir dans un environnement socio-culturel aussi complexe. Donc ce n'est pas tout ou rien. Ces déterminés génétiques peuvent déterminer, par exemple, certains mécanismes d'apprentissage, peuvent nous aider à apprendre certains types de choses, comme un des cas les plus impressionnants, c'est le langage. Sans un certain mécanisme génétique d'apprentissage du langage, eh bien on serait très embarrassé devant quelque chose qui est aussi complexe qu'un langage, quoi. Et pourtant, on apprend tous, ou presque, sans trop de problèmes, notre langage, en tout cas notre langue maternelle. Donc il y a bel et bien, il y a les deux, si vous voulez, sans ces capacités qui ont une source génétique d'une manière ou d'une autre, on n'aurait pas accès à ce bagage culturel qui peut être énorme.
L'enjeu, j'ai l'impression, qui se pose au travers de cet ouvrage, au travers des discussions que le groupe Déterminisme et Liberté peut avoir, c'est finalement d'essayer de comprendre, je vais caricaturer à nouveau parce que c'est des questions très vastes, mais de comprendre si la morale peut être finalement le résultat d'une sélection naturelle, de la sélection darwinienne. Est-ce que ça, ce serait l'enjeu, Christine Clavien ?
Oui, alors c'est l'enjeu au vu de beaucoup de personnes en fait qui connaissent assez mal ce genre de débat. Mais comme Fabrice Clément l'a mentionné, à partir du moment où on commence vraiment à réfléchir à la question, on se rend compte que la question est mal posée en fait. C'est pas parce qu'on adopte une perspective évolutionniste de la morale qu'on va réduire la morale à quelque chose de purement génétiquement déterminé. À partir du moment où on prend une perspective évolutionniste de la morale, on va se poser des nouvelles questions, on va trouver des nouvelles réponses, mais ça ne veut pas du tout dire qu'on va aboutir à une théorie complètement différente de ce qui se fait traditionnellement en morale, en fait.
Quelles sont les nouvelles questions qu'on va se poser, justement, quand on va aborder la morale dans cette perspective évolutionniste? Je vais vous poser une question précise, qui est celle de la liberté, par exemple. Si on envisage le comportement moral dans une perspective évolutionniste, de quelle liberté jouit l'agent moral, Christine Clavien?
Typiquement, si on prend une perspective évolutionniste, on va réfléchir au problème du rapport entre la liberté et la responsabilité de manière probablement un peu différente que si on le fait d'un point de vue plutôt des sciences humaines traditionnelles. Et on va peut-être imaginer la possibilité de mettre responsabilité et liberté comme des éléments compatibles. C'est d'ailleurs l'article de Catherine Dekever dans notre ouvrage collectif qui traite de cette question. Et de manière très intéressante, elle montre en fait qu'il est possible d'être complètement responsable de toutes nos actions, alors même qu'on n'est pas libre dans nos choix concrets. Parce qu'il y a, comme Fabrice Clément l'a dit tout à l'heure, une chaîne de causalité qui fait qu'on va prendre une certaine décision plutôt qu'une autre à un moment précis, parce qu'il y a tous les éléments causaux qui font qu'on va prendre cette décision à ce moment-là. Maintenant, on va essayer de récupérer la morale ensuite par un autre biais, pas par le biais de la liberté, mais par un autre biais. Et puis elle, ce qu'elle propose, c'est de s'éduquer en fait. C'est un travail d'éducation où on prend des habitudes et puis au moment de l'action, en fait, nos choix qui sont en même temps déterminés causalement vont prendre une direction plutôt qu'une autre parce qu'on s'est éduqué correctement. Et la responsabilité morale, elle tient plutôt de cet aspect-là, de l'aspect éducation plutôt que de l'aspect choix sur le moment. Donc voilà, ce serait une manière de réfléchir aux problèmes, un problème moraux à partir d'une perspective évolutionniste qui font qu'on approche les choses par un autre biais.
Dans la question de la nouveauté du questionnement, Fabrice Clément, vous tentez de libérer les sciences humaines, et pourtant vous êtes sociologue, vous tentez de libérer les sciences humaines de l'idée que l'homme est un être qui est séparé des autres espèces. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire pour vous, dans le rapprochement sciences naturelles et sciences de la culture, de faire de l'homme finalement une espèce parmi d'autres?
Bon, il y a plusieurs raisons qui peuvent pousser à faire ça. Il y a une volonté, je dirais, de consistance, d'une certaine façon. C'est le monde dans lequel on vit, il est aujourd'hui, Dieu est mort, depuis quelque temps, en tout cas, pour le monde scientifique, pour le champ scientifique, on ne peut pas se référer à une entité extérieure de ce type-là. Donc le monde, l'ontologie, elle est définie au CERN, comme on dit tout à l'heure. Les composants élémentaires, c'est des gens du CERN. Et ensuite, ce monde se complexifie en passant par la chimie, la biologie, la psychologie, la sociologie, etc. Gagne une série de niveaux de complexité. Et si on veut s'inscrire dans une compréhension unifiée du monde, il me semble qu'il est vraiment important de se dire, en tant que sociologue, anthropologue, politologue, de se dire il faut essayer d'avoir un vocabulaire qui soit le plus compatible possible avec les gens des sciences naturelles. Autrement, on va développer une science qui serait séparée de la science, si on peut dire. Et du coup, je ne sais plus très bien ce que c'est que cette science sociale qui serait si particulière, etc.
L'homme serait sorti de la nature, en fait, sorti de
l'homme
l'univers.
L'homme serait sorti de la nature. Et ça, on l'entend très souvent, il y a des raisons aussi disciplinaires, les sciences sociales se sont constituées en grande partie en réaction au développement des sciences naturelles. Donc cette spécificité liée au langage, à l'acquisition de la culture, etc., est défendue aussi pour des raisons disciplinaires qui se tiennent. Mais il y a cette volonté de consistance. Il y a aussi une volonté de connaissance. En tant qu'héritier d'une longue histoire évolutionnaire, on a avec nous, qu'on le veuille ou non, toute une série de mécanismes qui nous permettent de nous adapter à notre environnement de tous les jours. Notre environnement aussi bien physique que social, que enfin, tout ce que l'on veut. Et il me semble que du point de vue d'une volonté de la compréhension de l'homme, on ne peut pas se passer justement par une meilleure compréhension de ce que d'autres disciplines nous disent sur le fonctionnement des organismes en général. On est aussi un organisme.
Mais si on prend, on est un organisme effectivement au même titre que les autres animaux, que d'autres organismes. On fait partie de l'univers, on est bien d'accord. L'homme a quand même une spécificité que peut-être on retrouve difficilement chez les autres ou qu'on ne retrouve pas. C'est cette spécificité qu'il est un sujet moral. Il est un sujet qui se voit agir et qui, à partir de là, peut juger de ses actions. Comment est-ce que vous enracinez le sujet moral dans la nature.
Oui, alors c'est effectivement là qu'on a tendance à buter dans cette tentative de créer des ponts entre les sciences naturelles et les sciences sociales, les sciences humaines. C'est cette histoire du sujet. Oui, c'est aussi une histoire. Hein. C'est aussi le sujet tel qu'on l'envisage aujourd'hui, c'est aussi le fruit d'une histoire culturelle. Mais ceci dit, cette notion, lorsqu'on essaie de la naturaliser, eh bien, il faut déjà justement essayer de lui enlever cette couche d'humanocentrisme, si on veut, essayer de se dire, mais est-ce que, par exemple, d'autres espèces n'ont pas ces premiers composants qui sont nécessaires pour l'élaboration d'un sujet? Déjà pour essayer de comprendre ce que ça veut dire d'être un sujet.
Alors vous êtes intéressé à des expériences qui ont été faites sur des grands primates, effectivement, qui, d'une manière ou d'une autre, montrent qu'ils ont une conscience, ou en tout cas une représentation d'eux-mêmes. Il y avait la fameuse expérience de la tache sur le front, etc., qu'on fait aussi avec des nourrissons qui ne parlent pas encore, donc qui ne peuvent pas nous dire s'ils ont conscience d'eux-mêmes ou pas. Bon. Mais ça n'explique pas, malgré tout, comment ce sujet moral peut être enraciné dans la nature. Comment la conscience morale a pu émerger ou émerge?
Oui, absolument. C'est effectivement la question fondamentale. Ça nous fait revenir cette question des lois naturelles. En fait, il ne faut pas être obsédé par cette idée des lois naturelles. Le rapprochement avec les théories naturalistes, si on veut, ou les théories des autres sciences, c'est aussi utiliser des modèles explicatifs comme celui de la théorie de l'évolution. Et pour la notion de sujet, on peut là aussi se référer à cette histoire évolutionniste et essayer de se dire, mais comment ce genre de phénomène, comment la conscience de soi, la conscience même phénoménale a pu émerger. Et là, une des différences, et ce qui a l'air essentiel entre nous et les autres espèces, c'est une question qui revient tout le temps, hein, c'est cette capacité de se pouvoir se représenter ses propres représentations, d'avoir la possibilité de se faire une sorte de modèle, par exemple, de ce qu'on avait à l'esprit quelques instants avant, ou une semaine avant, ou de ce qu'on pourrait faire plus tard, etc., et de pouvoir maîtriser comme ça, comme plusieurs temporalités, si on veut, au sein de notre propre cerveau. Et ça, c'est une capacité qui a émergé, et on a toute une série d'hypothèses sur les raisons pour lesquelles ce genre de capacités ont été sélectionnées. On n'a pas le temps d'entrer là dans les détails, mais on peut essayer, par la théorie évolutionniste, de dire ben voilà comment et pourquoi, quelles ont été les contraintes, quels ont été les facteurs qui ont joué pour nous rendre cette capacité accessible et qu'est-ce que cette capacité va rendre possible. Et effectivement, cette capacité à méta-représenter, elle rend tout d'un coup possible, elle nous ouvre un champ des possibles qui est considérable, notamment celui de, comme dit Daniel Dennett, de faire mourir des hypothèses à notre place. Il y a des choses qu'on a plus besoin d'effectuer réellement pour voir si ça va être quelque chose d'efficace ou d'adaptatif, mais on peut les faire jouer mentalement. Et ça, c'est un fruit de notre histoire évolutive, si on veut, qui nous permet de nous détacher de l'ici et maintenant. Donc encore une fois, ce n'est pas une histoire de tout ou rien. Ces lois, entre guillemets, naturelles, nous ne devons pas forcément nous enraciner dans une vision de l'être humain comme dirigée par une série d'arcs réflexes. Non, justement, il y a cette espèce d'intervalle, comme on le disait tout au début, cet intervalle entre la prise en compte de certaines informations et un comportement, cet intervalle-là se meuble de toute une architecture cérébrale, historique aussi, d'une certaine façon, qui est absolument considérable et qui nous permet vraiment d'être homme, justement.
Et par rapport à l'aspect normatif et par rapport à la morale dans cette perspective évolutionniste, vous, Christine Clavien, vous recherchez une nouvelle manière de pratiquer la philosophie morale. Bon, donc en y introduisant un point de vue évolutionniste, vous développez, vous êtes dans le fil de ce qu'on appelle l'éthique évolutionniste. J'aimerais qu'on en pose les principes pour séparer peut-être le bon grain de l'ivraie, Christine Clavien.
Bon, l'éthique évolutionniste est un terme qui correspond en fait, à mon avis, à une approche en philosophie morale qui s'inspire en fait des théories de l'évolution. Bon, évidemment, au cours de l'histoire de l'éthique évolutionniste, qui est née à partir de Darwin en fait, puisque Darwin lui-même a essayé d'appliquer sa théorie de l'évolution au comportement moral humain, l'éthique évolutionniste, en fond, trouve ses racines dans les écrits de Darwin eux-mêmes. Ensuite, il y a eu toute une histoire assez malheureuse où le courant a été utilisé, notamment par le darwinisme social, par des gens qui voulaient aussi défendre des causes eugénistes, etc. Dans les années 70, Edward O. Wilson s'est pris à dire qu'il voulait retirer la morale des mains des philosophes pour la donner aux biologistes.
Oui, c'est un des fondateurs de la sociobiologie.
Voilà. Et donc, évidemment, les gens, maintenant, lorsqu'ils entendent parler d'éthique évolutionniste, souvent, ils ont à l'esprit, en fait, ces modèles un peu, ces moutons noirs, si on veut, du courant de l'éthique évolutionniste. Mais de nos jours, donc vraiment à partir des années 70 déjà, les penseurs dans ce genre de domaine adoptent des positions beaucoup moins choquantes et puis, à mon avis, beaucoup plus intéressantes.
C'est-à-dire ?
Ben, en fait, ce qu'ils veulent essayer de faire, c'est simplement développer une morale qui est applicable à l'être humain avec toutes ces déterminants génétiques, ça c'est une chose, mais enfin, la manière dont ils fonctionnent. Donc en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils essayent de comprendre comment fonctionne l'homme, comment il agit, pourquoi est-ce que c'est un être qui coopère, quelles sont les conditions de la coopération, quels sont ses besoins nécessaires pour pouvoir se développer en tant qu'organisme. Et en fonction de ce genre de connaissances, on va essayer de développer une théorie morale qui est adaptée, en fait, à l'être qui doit la pratiquer. Et je pense que si on comprend l'éthique évolutionniste plutôt de ce point de vue, en fait, où il s'agit plutôt d'une nouvelle méthodologie qui est utilisée à l'intérieur même de la réflexion morale, alors on se retrouve pas du tout dans une situation où la morale est mise en danger par l'éthique évolutionniste. Pas du tout.
Est-ce que le but, finalement, c'est d'utiliser la connaissance scientifique comme fondement de la morale, de se dire, voilà, tel comportement est généré, grosso modo, de nouveau, je simplifie, par telle disposition génétique dans tel contexte, et du coup, ça génère telle vision du bien, du mal, de la façon de coopérer.
Ouais, c'est une très bonne question. En fond, si on prend la morale... Il y a deux manières d'approcher la morale. Une manière est une manière un peu plus scientifique, et puis on l'approche d'un point de vue descriptif. Et puis on va essayer de voir quelle est la manière dont les gens développent des normes, développent des comportements moraux, réfléchissent de manière morale, pourquoi ils vont adopter certaines normes plutôt que d'autres, comment il se fait qu'ils ont, acquis les capacités nécessaires à pratiquer justement la moralité, comme les capacités réflexives, etc. Donc ça, c'est l'approche plutôt descriptive. Et puis une autre approche de la problématique morale, c'est l'approche normative. Est-ce que ça revient à votre question ? C'est de savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Et là, c'est vraiment le travail plutôt du domaine philosophique. Et là, c'est clair que l'approche évolutionniste est beaucoup plus restreinte. Donc, c'est pas parce qu'on arrive à montrer, par exemple, que la plupart des gens dans ce monde rejettent l'inceste, et puis qu'on arrive aussi à expliquer pourquoi, du point de vue évolutionnaire, pourquoi les gens sont choqués parce qu'ils voient une relation incestueuse. C'est pas parce qu'on arrive à expliquer ça qu'on dispose d'une justification ou d'un fondement de la norme qui interdit l'inceste. Il faut quelque chose de plus. Au fond, on retrouve ici le fameux argument qu'on appelle le sophisme naturaliste, qui est en fait un passage fallacieux du monde factuel au monde normatif.
C'est-à-dire la science va tâcher de décrire ce qui est et la morale va tâcher de trouver ce qui doit être.
Voilà. Donc on peut pas partir d'une description de ce qui est et en dériver directement ce qui doit être. Donc ça, c'est typiquement ce passage fallacieux qui est décrié par beaucoup de philosophes, à raison d'ailleurs. Et puis la tâche, entre autres, de l'éthicien évolutionniste, est de voir dans quelle mesure il est possible d'établir un lien entre ces deux mondes, en fait, entre le monde normatif et le monde descriptif. Je pense qu'un mauvais éthicien évolutionniste voudra faire un lien direct. Ça s'est fait d'ailleurs, et c'est bien dommage.
Ça ressemblerait à quoi, ce lien direct ?
Typiquement, les nazis diraient, voilà, il y a une race pure. Cette race pure, puisqu'elle est pure, elle est bonne. Et ils plaquent en fait tout simplement le bien sur un concept descriptif. Ils font une sorte de réduction descriptive ici. Une autre manière de le faire, c'est de dire, par exemple, tout le monde condamne l'inceste, donc l'inceste est mauvais. Ce serait une deuxième manière de faire ce lien fallacieux. Si on veut, c'est des raccourcis réflexifs qui peuvent s'avérer dangereux. Donc, dans la plupart du temps, on va quand même s'en tenir à des normes que les gens intuitivement acceptent. Donc souvent, même, enfin, c'est des raisonnements qu'on fait pas seulement en éthique évolutionniste, mais aussi dans plein d'autres. Beaucoup de philosophes pourraient faire ce raisonnement sans avoir une approche évolutionniste. Mais évidemment, ça peut devenir dangereux dans certains contextes.
Et si on résume, parce qu'on arrive au terme de cet entretien, Christine Clavien, le comportement du bon éthicien évolutionniste, quel lien est-ce qu'il va faire entre ce que la science évolutionniste va lui donner et la morale?
Bon, il y a plusieurs manières de le faire, et puis il y a beaucoup de travaux sur ces questions, mais disons la manière qui me paraît la plus convaincante, c'est de dire bon, on essaye de regarder ce que nous dit notre sens commun, ce que nous disent nos intuitions morales, et il se trouve que parfois nos intuitions morales entrent en contradiction. Et dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est essayer de trouver des bonnes raisons pour défendre une intuition plutôt qu'une autre. Dans ce cadre-là, je pense qu'on peut avoir recours aux données factuelles, en fait, plus scientifiques. Et puis, on peut essayer de se dire, bon, ben voilà, si il y a beaucoup plus de gens qui pensent que cette intuition est correcte, alors peut-être qu'il faudrait que... Je pense qu'elle soit, enfin, peut-être qu'elle est plus justifiée que l'autre. Et là, on a recours en fait à des éléments descriptifs pour renforcer une intuition qu'on a déjà.
Et c'est ce que vous appelez le sens commun renforcé,
voilà,
votre article du collectif Morale et évolution biologique. On doit s'arrêter là, Christine Clavien.
J'ai peut-être dernier mot à dire par rapport à l'ouvrage, c'est que bon, ce que Fabrice Quémant et moi-même avons exprimé ici ne correspond pas forcément à tout ce que voudraient dire les gens qui ont écrit des articles dans cet ouvrage. Cet ouvrage est très polémique, en fait, et on trouve des gens qui défendraient plutôt des théories un peu plus... humanistes, qui défendent un peu plus l'originalité et la particularité humaine, beaucoup plus que ce que nous on serait disposé à accepter. Enfin, il faudrait surtout pas que le lecteur pense que ce que nous avons dit ici correspond à ce que tout le monde a dit dans cet ouvrage. Je pense qu'il y a une bonne moitié des articles dans cet ouvrage qui ne correspond pas forcément.
Donc, on ne peut que appeler nos auditeurs à lire ce livre.
Disez-le, vous pouvez, comme ça, chaque auditeur pourra se faire son point de vue personnel sur la question.
Ouais. Donc, merci Fabrice Clément, merci à vous Christine Clavien. Donc, vous êtes venue comme représentant du groupe Déterminisme et Liberté, tout en gardant votre parole à vous, en ne vous exprimant pas au nom de tout le groupe, qui est un groupe fort divers de par ses prises de position. Morale et évolution biologique, c'est un livre qui est paru aux presses polytechniques et universitaires romandes. Merci beaucoup d'être venu.
Merci. Merci.
Cet entretien vous était proposé par Marc Berman avec Christophe Esseva, Nicolas Corpato et Annick Chuin. Rendez-vous demain, Géopolitique, comme tous les jeudis, et vous retrouverez Nicole Duparc. Merci de votre attention et de votre fidélité. Retrouvez l'équipe des temps qui courent tous les jours de la semaine à 8h30 et en nouvelle diffusion à 19h30. Vous pouvez obtenir les CD de nos émissions au 026 323 24 24. Vous pouvez également nous écouter sur internet rsr.ch ou encore podcaster les entretiens qui vous intéressent.
Espace 2. La vie, côté culture.